La révolution ne s'arrête pas là. Demain, c'est au tour des objets d'être connectés.
Ces appareils, ce sont malgré tout des micros installés de façon permanente à domicile.
On est entouré de produits connectés. Il y en aura entre 50 et 80 milliards en 2020, c'est-à-dire demain.
On peut être à une distance suffisante pour réaliser une attaque sans être détecté et avoir tout de même accès à l'enregistrement de ce qui se passe dans la pièce.
Alors que l'ère des écoutes de services secrets peu scrupuleux des libertés de la population semble être révolue dans nos démocraties occidentales, tout du moins, aurions-nous paradoxalement consenti à nous mettre sous écoute d'acteurs privés qui épient le moindre de nos gestes pour alimenter leurs immenses bases de données? Il suffit de faire ce test, amusant ou effrayant, c'est selon, hein, dans une soirée chez l'un de vos amis, et de dire à voix haute « Dis Siri, OK Google ou Alexa » pour s'en rendre facilement compte. Et ce n'est que la face émergée de l'iceberg, en plus de nos téléphones, de nos enceintes connectées, des assistants personnels, les aspirateurs, les balances, les frigidaires, les peluches connectées. Nous sommes, nous, enfermés volontairement dans un nouveau réseau de surveillance. Bonjour Vincent Roca.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Est-ce que nos objets connectés nous espionnent ?
C'est certain que les objets connectés sont aussi là pour collecter des données personnelles sur la part des utilisateurs de l'habitat. Si on se focalise sur l'habitat intelligent, qui concentre pas mal d'objets connectés, on va avoir différents équipements, qui sont toujours des petits objets électroniques, qui sont en permanence connectés via des réseaux sans fil en général.
Par exemple, quel type d'objet, concrètement ?
Alors, ça peut être les enceintes connectés bien évidemment, mais ce sont aussi des ampoules connectées, des prises connectées, des éléments qu'on peut contrôler comme ça à distance, via un smartphone, via une tablette.
Ce que vous dites, c'est qu'au lieu de me lever pour aller allumer une lampe, si j'utilise un assistant, un opérateur personnel de domotique pour allumer une ampoule, d'un seul coup, ça met en jeu un nombre considérable de ressources.
C'est tout à fait comme cela qu'il faut comprendre la situation. En fait, on a une apparence de simplicité, mais c'est vraiment ce qui est montré à l'utilisateur, de façon à ce qu'il puisse accepter d'utiliser ces objets. Mais derrière, il y a une infrastructure extrêmement complexe qui est à l'œuvre, qui va faire intervenir des acteurs multiples. Tous les GAFA, Google, Amazon, sont impliqués là-dedans. Et ils font tout pour pouvoir être impliqués. Et puis, il y aura des échanges qui vont avoir lieu entre ces différents objets, entre ces différents services web de stockage, de calcul, d'intelligence artificielle qui vont traiter toutes ces données qui vont être collectées de cette façon-là.
Alors, il y a en fait au centre de tout cela, derrière ces objets, des interfaces, vous les avez nommées, ça peut être les enceintes collectées, les assistants personnels ou les assistants de maison, comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui ?
On va dire enceinte connectée.
Enceinte connectée, ça... donc c'est type Google Home, Alexa, principalement
voilà. Essentiellement. Voilà. Donc ce sont des objets qui ont pris beaucoup d'importance dans l'habitat intelligent parce que Google et Amazon, pour ne citer qu'eux, ont réussi à les imposer. Et en fait, tous les fabricants d'objets connectés sont obligés d'être compatibles avec ces enceintes connectées. Cela veut dire que Google et Amazon sont en position de force pour imposer leur volonté auprès de ces fabricants, de ces petits fabricants, Philips par exemple, TP-Link, d'autres acteurs de ce type-là. Et derrière ces accords commerciaux, on a des échanges de données, des interconnexions avec les infrastructures de Google.
Un acteur comme Google, aujourd'hui, on lui confie, au début c'était juste un moteur de recherche, et puis ça devient nos mails, puis ça devient nos documents, puis ça devient nos trajets. On peut faire ce test que j'ai fait en préparant cette émission, un peu anxiogène, de se dire, quand on va sur Google Maps, on a accès à l'historique de nos déplacements.
Alors Google a cela de bien, c'est qu'ils ont créé une interface utilisateur qui permet à l'utilisateur d'aller voir quelles sont les données que la société détient par rapport à leur déplacement, uniquement l'historique de déplacement. Et c'est vrai que ça peut faire peur que de constater que mes trajets d'il y a 3-4 ans en arrière sont encore stockés dans leur base de données.
On peut rappeler que Android, c'est aujourd'hui le système d'exploitation de quasiment 90% des téléphones portables en France en tout cas.
Ils sont en position dominante. Et c'est vrai que le smartphone a ceci d'important pour ces acteurs-là, à savoir qu'il fait le lien entre le monde virtuel, tout ce qui est communication Internet, et puis le monde physique. Donc il est vraiment à l'interface entre les deux mondes. Et de ce fait, des informations qui n'étaient pas accessibles lorsque Google était limité uniquement à tout ce qui est moteur de recherche sont maintenant possibles. Géolocaliser en permanence l'utilisateur est possible. Pouvoir lui présenter des publicités ciblées quand il s'approche d'un magasin avec lesquels il y a un accord commercial, ça crée des perspectives commerciales importantes.
On voit bien aujourd'hui qu'il y a tout un écosystème entre le téléphone portable qui, on l'a dit beaucoup, j'évoquais ce titre dans l'introduction, il suffit de dire « Dis Siri, OK Google » et d'un seul coup, en fait, il nous écoute en permanence. C'est-à-dire que même quand on a l'impression que le téléphone est éteint, il capte les paroles qui sont énoncées.
Oui, pendant un certain laps de temps, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne, puisqu'on a réveillé le système de compréhension de langage naturel, et donc forcément, il se met en attente d'instruction.
C'est vrai aussi pour les enceintes domestiques, c'est vrai pour tous ces objets connectés qui nous écoutent en fait tout le temps. Constamment, la télévision, tout ça nous
écoute.
Dès lors
qu'on les réveille, effectivement, ils sont à l'écoute d'ordre. Et ce qu'il faut voir, c'est que les flux de données qui sont générés sont très importants. Donc, on avait fait un test très simple où il s'agissait de contrôler une ampoule connectée via une enceinte, alors soit Google, soit Amazon. Et on s'apercevait qu'on avait, juste pour une instruction, réveiller l'enceinte et allumer ou éteindre l'ampoule, on avait des trafics de l'ordre du mégaoctet, supérieur au mégaoctet, qui étaient générés et transmis aux serveurs de Google qui sont aux US. Ça fait un peu peur.
Quelle est l'utilité aujourd'hui pour un opérateur du type Google ou Amazon de cartographier mon appartement via un aspirateur connecté?
Récolter des informations sur les utilisateurs, sur leur logement, va permettre ensuite d'avoir un profil très précis de ces utilisateurs, va permettre de connaître leur centre d'intérêt, va permettre aussi, dans le cas de l'aspirateur, de connaître la surface de l'appartement et donc d'en déduire des informations utiles, point de vue classe socio-professionnelle de cette famille. Donc ce sont des informations qui derrière sont très précieuses. Un chiffre qui est très important pour comprendre la situation vis-à-vis de Google, Alphabet, qui est la maison mère qui détient la société Google, a fait en 2018 un chiffre d'affaires de 136 milliards de dollars global et 85% de ce montant-là était lié à la publicité ciblée.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut refuser tout objet connecté ?
Il faut peser le pour et le contre, le bénéfice et les risques. Également réfléchir un peu en termes écologiques parce qu'avoir des flux qui traverse l'Atlantique systématiquement alors que je suis chez moi, que je contrôle une ampoule qui est à un mètre ou deux, ça pose question. Ce n'est pas écologiquement responsable, je trouve. Donc voilà, il faut avoir peut-être un peu de prudence vis-à-vis de ces objets. Personnellement, je n'en mettrai pas chez moi pour l'instant.
Est-ce que c'est possible de désactiver au maximum, c'est-à-dire d'empêcher, de limiter la possibilité d'emprise de ces appareils, de ces objets connectés sur mon quotidien?
La société qui développe le système d'exploitation du smartphone va définir des règles. Et ces règles seront ensuite appliquées imposé à tous les acteurs qui rentrent sur mon smartphone, les développeurs d'applications, les régies publicitaires qui développent des bibliothèques pour me tracer. Ce sont des règles qui s'imposent à tout le monde. Et on a une grosse différenciation de comportement, de possibilité entre ce que l'on peut faire sur un smartphone Android, où là, on aura compris, Google, à la base, cherche à collecter des informations personnelles, et ce qui peut se passer, par exemple, sur un iPhone. Je ne veux pas faire de la publicité à Apple, mais le fait est qu'Apple a développé un autre modèle économique basé plus sur la vente de matériel et de logiciels, une vente très chère, très coûteuse, mais en contrepartie, ils nous garantissent de ne pas nous tracer. Et effectivement, quand on regarde les détails...
Peut-être pas, mais enfin de moins.
De beaucoup moins nous tracer.
On a beaucoup dit aujourd'hui que des grosses attaques en denier de service passent et utilisent des relais de frigidaire, de four à micro-ondes ou de peluches connectées, c'est vrai?
Oui, tout à fait. C'est l'exemple du botnet Mirai. Donc c'est un réseau de... Alors habituellement, les botnets sont des réseaux de PC zombies. Là ici, c'était un réseau de...
Les botnets, ce sont des réseaux, des robots en réseau qui permettent d'utiliser plein de ressources pour produire des attaques massives à l'encontre d'un serveur en particulier.
Oui, c'est ça. On prend la possession d'un ordinateur. Là, en l'occurrence, avec Mirai, c'était des caméras IP et des routeurs domestiques. On prend cette possession parce qu'on peut facilement les attaquer. Et puis, une fois qu'on en a pris la possession, ces équipements sont laissés dormants. Et puis, le jour où l'on veut monter une attaque, on va les réveiller, on va leur donner l'instruction à tous, de façon synchronisée, d'envoyer des requêtes à destination du même serveur, du même équipement cible, et celui-ci va s'effondrer sous la charge.
Voilà, pour éviter d'avoir une peluche zombie chez vous, il faut essayer d'en essayer de désactiver au maximum ses capacités de connexion. Merci beaucoup Vincent Roca, je rappelle que vous êtes chercheur à INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique.
Merci à vous.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.